Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose de réfléchir aujourd'hui à partir de la première lecture de dimanche prochain tirée du livre de l'Exode et de regarder comment elle nous éclaire et nous inspire pour la prière des frères. Commençons par lire cette première lecture. Nous sommes dans le livre de l'Exode au chapitre 17, les versets 8 à 13. Un mot de contexte. Le peuple est sorti du pays d'Égypte, il a passé la mer Rouge, il est en marche dans le désert, il n'est pas encore arrivé jusqu'au Sinaï, l'alliance n'a pas encore été scellée. Cependant, le peuple a mis le Seigneur à l'épreuve à Massa et à Meriba en se demandant « Mais est-ce que le Seigneur est vraiment parmi nous ?» Et du coup, Israël se retrouve à devoir combattre Amalek. Amalek, c'est un peu le peuple qui survient lorsque Israël doute. Et Amalek est comme le fruit du doute. Il se dresse alors sur le chemin entre Israël et la terre promise. Mais lisons le texte. En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Hur étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait les mains levées, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Fin de la lecture. Le texte nous permet de voir que Moïse a une mission en faveur du peuple d'Israël. Il est appelé à intercéder pour le peuple qui combat Amalek, et on se rend compte que quand Moïse intercède, le peuple est vainqueur, mais si Moïse cesse son intercession, alors c'est Amalek qui est vainqueur. Il a une mission pour le bien du peuple. Et apparemment, cette mission, on ne peut pas la mener à sa place. On observe aussi la faiblesse, j'allais dire la faiblesse naturelle de Moïse. Il y a un moment où il fatigue. Les mains de Moïse s'alourdissaient, nous dit-on. On pourrait alors penser que la faiblesse naturelle de Moïse est une limite à la mission qu'il a reçue, que sa faiblesse naturelle, en fait, va s'opposer à la mission qu'il a reçue, que sa faiblesse naturelle va mettre en échec la mission qu'il avait reçue d'intercéder pour le peuple qui était au combat contre Amalek. Cependant, il y a un chemin, un autre chemin qui va être ouvert. Et notons que ce chemin n'est pas une intervention, on pourrait dire, miraculeuse qui ferait de Moïse un surhomme, qui ne connaîtrait pas la fatigue, qui ne connaîtrait pas la lassitude. Moïse n'est pas transformé en un super-humain, mais Moïse va recevoir une aide. Aaron et Hur ne vont pas se substituer à lui, mais ils vont l'accompagner dans sa prière. C'est ce que signifie le fait qu'ils portent chacun une main de Moïse. Ils participent à son temps de prière, ils ne se substituent pas à lui. Ils vont être avec lui dans la prière. Notons aussi qu'ils ne se contentent pas d'être avec lui dans la prière, ils vont également intervenir pour améliorer les conditions et le contexte dans lequel Moïse prie. Oui, on apporte une pierre sur laquelle il pourra être assis. Il y a donc une attention qui est une attention à une aide matérielle et une attention à l'aide spirituelle. La conclusion du texte est que Moïse, assisté de Aaron et Hur, a pu mener sa mission d'intercession jusqu'au bout, et ainsi Josué a triomphé des Amalécites dans la plaine. Cet épisode est un épisode qui est classiquement évoqué pour parler de la prière des frères. Moïse est arrivé à accomplir sa mission pour le bien du peuple grâce à l'intervention de ses compagnons Aaron et Hur. L'acte d'Aaron et Hur a manifesté une charité fraternelle pour Moïse, mais aussi pour le bien de tous les peuples. Ils ont porté sa prière avec lui, ils ont prié avec lui. C'est une grande charité que d'aider quelqu'un à rencontrer son Seigneur, à se tenir devant son Seigneur. C'est aussi pour celui qui demande la prière un acte d'une grande humilité qui exprime notre besoin de recourir à l'aide de Dieu et à l'aide de nos frères. Cela demande de prendre un peu de recul par rapport à un élément de culture de notre société où on se dit « Oh, il ne faut pas déranger, il ne faut pas demander », alors que l'aide de la prière des frères est un moyen qui nous est mis à disposition, à portée, c'est une ressource de la communauté chrétienne. J'ai déjà pris souvent cette image en disant que comme le poisson est fait pour vivre dans l'eau, le chrétien est fait pour vivre dans la grâce de Dieu. C'est son lieu naturel. Et l'on pourrait dire de même que le poisson est fortifié par le plancton qui va manger dans l'eau. Eh bien, le chrétien est fortifié par la prière des frères qu'il trouve dans la communauté. Il est normal que le poisson se nourrisse du plancton. Il est normal que le chrétien bénéficie de la prière des frères. La prière des frères n'a pas le caractère exceptionnel du sacrement des malades, où il faut que la force vitale de la personne ait été sérieusement ébranlée. D'une certaine manière, on pourrait dire, plus je demande, plus le Seigneur peut me parler, plus je peux m'accorder à sa volonté. Cela ne veut pas dire qu'il faille demander la prière des frères toutes les 3 minutes, mais simplement avoir conscience qu'elle fait partie des ressources ordinaires de notre vie de chrétien. Alors, qui peut demander la prière des frères ? Eh bien, celui qui est présent à la réunion de la cellule peut demander la prière des frères. Elle peut être directement demandée par l'un des participants, mais c'est aussi le leader qui, percevant la souffrance de l'un des membres, peut le lui suggérer si la personne n'ose pas le demander elle-même. Il fera cette suggestion avec tact et discrétion, mais quand même explicitement. Peut-être qu'elle aura lieu aujourd'hui, peut-être qu'elle aura lieu plus tard. Deuxième point, pour quel motif peut-on demander la prière des frères ? Elle peut être demandée pour une difficulté spirituelle, pour une difficulté morale, pour une difficulté affective, parce que on se trouve dans des relations qui provoquent découragement et dépression, pour des difficultés économiques, pour des difficultés de santé physique ou mentale, pour des difficultés professionnelles dans notre travail. Donc les motifs sont larges. Comment se déroule alors la prière des frères ? La prière des frères peut se décomposer en 4 temps. Un premier temps, un temps pour accueillir. Accueillir la personne, lui sourire, manifester notre bienveillance, demander son prénom si on s'en souvient plus. On peut aussi poser la main sur son épaule après lui avoir demandé si elle est d'accord. Et ensuite, on demande à la personne d'exprimer sa foi et sa demande. La demande n'a pas besoin d'être longue et compliquée. La formulation de sa demande par la personne rejoint la volonté du Seigneur qui avait demandé à l'aveugle Bartimée « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» La personne exprime donc ce qu'elle souhaite que le Seigneur fasse pour elle. Ensuite, deuxième temps, nous allons communier à la demande. Il y a une question de foi. On peut demander intérieurement au Seigneur de nous donner la foi pour accueillir ses grâces, pour être un canal pour cette personne et croire que l'Esprit Saint veut se donner à travers de nous, veut se donner à travers de nous qui participons à cette prière des frères. Puis il y a une bénédiction sur la vie de la personne. On bénit Dieu, on demande au Seigneur de bénir cette personne, en citant son prénom, en demandant au Seigneur de venir à son aide, de lui envoyer son Esprit Saint. Troisième temps de la prière des frères, l'intercession et l'acte de foi. L'intercession, on reprend les demandes de la personne, que leur cri devienne le nôtre, comme disait le pape François, ou comme disait l'épître aux Galates, « Portez les fardeaux les uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi du Christ. » On prie l'Esprit Saint. On demande à l'Esprit Saint de venir, que ce soit un moment de kairos, un moment, le bon moment pour l'action. Laissez l'Esprit descendre. On peut chanter ou rester en silence. On n'est pas obligé de parler tout le temps. On laisse le Saint-Esprit faire. On intercède avec foi, avec espérance et charité. On aime et on prie. On prend le temps du silence. On laisse Dieu nous parler. On reste centré sur le Seigneur. Si une parole ou une image nous est donnée pour la personne, on peut la dire avec prudence. Quelques éléments qui peuvent nous aider à discerner. Ben voilà. On a une parole, une image qui nous vient, bien on demande au Seigneur d'affermir en confirmant. Et si cela se dissipe dans notre cœur, alors on laisse cette idée de côté. On peut aussi écouter ce que disent les autres autour de nous, car cela peut confirmer ce que nous avions à dire. Dans tous les cas, on confronte notre parole à la charité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne dis pas une parole parce que j'avais très envie de la dire, je dis une parole parce que j'aime la personne. La parole est dite par amour et en vue de l'amour. La parole est dite aussi en respectant la liberté de la personne. Ce n'est pas « tu dois, il faut que », c'est une suggestion qui est donnée à sa liberté, qui est mise devant sa liberté, il faut, et que la personne s'appropriera ou pas. Souvenons-nous par ailleurs que si l'Esprit Saint nous inspire, c'est toujours en accord avec la foi de l'Église. Si ce qui nous vient à l'Esprit n'est pas en accord avec la foi de l'Église et ne contribue pas à l'édification du corps du Christ dans la charité, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Rappelons-nous aussi que la prière des frères n'est pas un accompagnement spirituel. Enfin, si la personne a des effets de la présence de l'Esprit Saint, eh bien on accompagne cela, on remercie le Seigneur pour ce qu'il fait, mais on se souvient que l'effet, le signe visible ou la grâce sensible n'est pas l'essentiel. Elle permet de comprendre et d'accompagner l'œuvre de l'Esprit, mais ce n'est pas l'essentiel. On peut ne pas avoir eu de paroles ou d'images, en fait elles sont secondaires. Il se peut que rien ne soit suggéré. Le cœur, c'est cet acte de foi par rapport à la prière pour la personne. Nous savons que le Seigneur agit parfois dans le secret, dans le silence, mais nous avons foi qu'il agit quand on le lui demande. Quatrième et dernier temps de la prière des frères, remercier et clôturer. On remercie le Seigneur Jésus de tout ce qu'il a fait déjà et de ce qu'il va faire pour la personne, avec foi et dans un esprit de louange. On n'a pas besoin de rabâcher longuement pour que le Seigneur écoute. À la fin, on confie la personne à la Vierge Marie, aux anges, ou on se confie par un autre Père selon notre inspiration. Après la prière, si on sent que la personne a quelque chose à déposer dans le sacrement de la réconciliation, on pourrait le lui suggérer avec délicatesse, sans rien imposer. Idem pour toute autre démarche. Rappelons ce que la prière des frères n'est pas. On ne donne pas de conseils au sens de l'accompagnement spirituel. On ne lui dit pas « voilà la pénitence que tu dois faire ». On ne juge pas. On encourage simplement dans la confiance. On peut aussi relire la façon dont les choses se sont passées. La personne était-elle en confiance? Est-ce que nous avons aimé la personne comme Jésus? Ce que nous avons reçu comme image, comme parole, est-il tombé juste? Nos paroles ont-elles été confirmées par l'un ou l'autre? Finalement, la prière des frères est simple, humble et relativement courte. Elle dure 5, 7, 10 minutes maximum, mais elle n'a pas besoin de durer plus longuement. frères et sœurs, que la grâce que Aaron et Hur firent à Moïse en l'aidant nous aide et nous inspire pour vivre simplement et avec foi la prière des frères. Je vous souhaite de bons échanges.